Violence de ceux qui souhaitent installer le chaos dans notre République et qui veulent faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Le réveil est douloureux à gauche, cela fait longtemps que nous sommes bien réveillés. On va en débattre ce soir dans Punchline, dans cette édition spéciale consacrée à ces manifestations du 1er mai.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari. Oh.
D'abord, le rappel des titres de l'actualité avant de repartir sur le terrain. Jordan Bardella et Marine Le Pen en meeting à Perpignan aujourd'hui. La tête de liste RN pour les élections européennes, M. Bardella, avait donc choisi le 1er mai pour lancer le compte à rebours. Le Rassemblement national est en tête dans les derniers sondages à plus de un mois du scrutin. À Toulon, un mort et deux blessés après une altercation en boîte de nuit la nuit dernière. Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé. Il est soupçonné d'avoir volontairement foncé avec son véhicule sur un groupe de personnes à la sortie d'une discothèque. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Au Royaume-Uni, les premiers migrants susceptibles d'être expulsés vers le Rwanda ont été arrêtés et placés en détention. Le Premier ministre Rishi Sunak salue une nouvelle étape dans le déploiement d'une mesure phare de sa politique migratoire. Davantage d'arrestations devraient être menées dans les semaines à venir, a-t-il affirmé. Enfin, 208e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Orad. Nous pensons à eux ce soir, à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h01 et quelques secondes en direct sur CNews et sur Europe 1. On va tout de suite repartir sur le terrain à Paris, place de la Nation, retrouver l'une de nos équipes qui se trouve donc au cœur de ce qui se passe, des échauffourées, puisqu'il y a de la tension, beaucoup de tension sur cette place de la Nation. Le cortège syndical est en train d'arriver sur cette place et il y a des éléments radicaux qui tentent de semer la zizanie en mettant le feu au mobilier urbain et en jetant des projectiles sur les forces de l'ordre. C'est bien ça, expliquez-nous ce qui se passe autour de vous. Bonsoir. Alors, on va retourner dans un instant retrouver nos équipes qui sont sur place. Sandra Musson est avec nous du service police-justice de CNews. Sandra, un petit bilan peut-être du nombre de policiers blessés et du nombre de personnes dans la capitale.
Oui, il y avait donc 18 000 personnes qui s'étaient rassemblées aujourd'hui pour manifester pour le 1er mai contre un peu plus de 110 000 l'année dernière. 50 000 personnes selon la CGT aujourd'hui. Et à 7 heures, on est à 29 personnes interpellées et 12 membres des forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui sont blessés et qui sont en urgence relative.
Jean-Christophe Pauvier est avec nous, policier, secrétaire national du syndicat de police Unité. Le travail que font vos collègues en ce moment, c'est de permettre au cortège, assez peu fourni, mais néanmoins il y a quand même 18 000 personnes selon les forces de l'ordre, de s'écouler dans les artères qui bordent cette place de la Nation sans trop de heurts, c'est ça ?
Oui, le but en fait c'est l'arrivée. C'est toujours là où c'est compliqué parce qu'on a une tête de cortège avec des éléments qui ne sont pas du tout syndiqués, qui sont là. C'est un peu l'international des imbéciles, hein, comme je disais tout à l'heure, ça vient de partout. Il y a des black blocs, il y a des anarchistes, des anticapitalistes, enfin voilà, on ratisse large. Et puis effectivement, les cortèges doivent avancer et l'idée c'est qu'ils arrivent au bout de la manifestation et qu'après ils puissent se disperser tranquillement. Et c'est là où souvent il y a des échauffourées parce que du coup il y a une masse de foule qui arrive et donc les black blocs peuvent faire le coup de poing et tout de suite aller se réfugier avec d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Et là, c'est très délicat pour nous, policiers, d'intervenir parce que y a des innocents et il faut trier le bon grain de livret, quoi. Et c'est très compliqué. Et ça, ils le savent. Et c'est là où, après, on a aussi des spécialistes qui filment avec des images où on peut donner, on va dire, voilà, il y aura des policiers, les violences policières, cette personne n'avait rien fait, etc. C'est le guet-apens classique des blagues.
Évidemment. Sur la place de la Nation, on va rejoindre notre équipe CNews dans une ambiance assez tendue. Expliquez-nous ce qui se passe autour de vous.
Oui, effectivement. Bonsoir Laurence. Une ambiance un peu particulière est tendue ici, place de la Nation, où doit se terminer cette mobilisation du 1er mai. D'un côté, le cortège syndical qui continue d'arriver petit à petit dans une ambiance bon enfant. Et de l'autre, eh bien, des black blocs qui continuent d'affronter la police minute après minute. Vous l'entendez autour de moi, des bombes agricoles qui éclatent, des jets de bouteilles en quantité en direction des forces de l'ordre qui procèdent à des charges successives, comme à l'instant même où je suis en train de vous parler. Des forces de l'ordre qui tirent des bombes lacrymogènes pour tenter de disperser ces Black Blocs et tenter également de les empêcher de constituer un bloc, un groupe qui pourrait être effectivement plus agressif qu'il ne l'est actuellement. Alors la complexité pour les forces de l'ordre, ça va être de pouvoir disperser cette manifestation dans les prochaines minutes, puisque cette place de la Nation, elle est évidemment ronde, elle est bouclée par les forces de l'ordre à ses quatre coins, et à son centre, eh bien, une majorité, il faut le reconnaître, d'éléments radicaux qui sont pour la plupart munis de canettes, de bouteilles, de pierres, et qu'ils jettent en direction des forces de l'ordre.
Merci beaucoup pour ces explications. Nos équipes sont anonymes, on ne donne pas vos noms à l'antenne, on vous protège au maximum pour que vous ne soyez pas la cible, comme les policiers, de ces éléments violents qui n'hésitent pas à cailler ces policiers et journalistes, évidemment. On a le même mode d'emploi à chaque fois, hein, Jean-Christophe Couvi. Des éléments radicaux, ils ont un masque, ils ont une cagoule, ils ont des gants, et ils sont absolument méconnaissables, et ils attaquent, et ils attaquent, et ils attaquent.
Oui, mais en fait, c'est du harcèlement, mais en même temps, on les a laissés pendant des années s'entraîner, hein, Notre-Dame-des-Landes et ailleurs, je veux dire, c'était une pépinière. Hein. Ils pouvaient s'entraîner à ciel ouvert, tranquillement, développer justement des méthodes d'insurrection, et puis après, sur différentes manifs, voilà, ils arrivent comme ça à se coordonner. C'est ce qui fait leur force d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas forcément, il n'y a pas d'interconnexion entre eux, mais ils arrivent quand même sur ces manifestations à se coordonner. Il y a toujours le mode d'emploi, c'est-à-dire on met le feu, on attire les pompiers, donc les policiers du coup deviennent des cibles. On met un bloc avec des parapluies ou des abris pour se protéger justement d'éventuels tirs de grenades ou de LBD, et puis surtout pour cacher l'envoi, le jet de projectiles. Voilà, toujours pareil. Et puis dès que la police charge, envolée de moineaux, et puis on se réfugie à travers la foule qui est un peu innocente, qui est là, qui est des badauds, qui regarde, et du coup c'est très compliqué d'interpréter.
Bien sûr, avec des syndicalistes qui arrivent tranquillement après leur défilé.
Pour porter, j'allais dire, évidemment, des messages politiques, et pas non plus...
Et les mots d'ordre de la manifestation qui étaient loin de la violence. Catherine Ney nous a rejoint. Bonsoir Catherine, éditorialiste politique. Quand vous constatez ce qui se passe, ce scénario malheureusement qui se répète à l'infini dès qu'il y a des manifestations, avec la survenue de Black Bloc qui parasite complètement le cortège, vous vous dites... On n'arrive pas, l'État est impuissant en fait à juguler ces phénomènes.
On peut se poser la question, en tous les cas, on pouvait écrire, on pouvait dire hier ce qui allait se passer aujourd'hui. Et ça a commencé en mai 2018, où là, ça a été quand même la première grosse manifestation où la police pensait qu'il y aurait entre 400 et 500 Black Blocs. Ils étaient 1200, vous vous souvenez du blocage au pont d'Austerlitz, où là, ils ont tout cassé. Des restaurants, des garages, enfin ça a été terrible. Et puis surtout ces Black Blocs inconnus, c'était pas. Et donc on ne peut plus dire aujourd'hui que.
On ne sait pas.
Et ça se répète avec plus ou moins de violence en province aussi depuis 2018. En tous les cas, ce mai 2018 donnait déjà des aperçus de ce que seraient les Gilets jaunes qui ont suivi après. Ça leur a donné des idées et l'occasion de castagner. Et c'est vrai qu'ils viennent pour casser, c'est des anticapitalistes, mais pas seulement, ils veulent vraiment en découdre avec la puissance publique, se casser du flic. Et ce qu'ils veulent, c'est même avoir qu'il y ait des. Il y a toujours cette nuée de photographes, on dirait qu'ils viennent là pour leur garde du Vietnam, et surtout prendre la bonne photo, soit pour dire que la police tue, soit pour montrer au contraire que la police est submergée et donc impuissante. Donc c'est là. C'est une manière, tous les 1er mai, de casser l'État. Parce que ne parlons pas de la grande fête où avant c'était la fête des syndicats, à une époque où d'abord les syndicats étaient incarnés, où ils étaient reçus à l'Élysée, il y avait tout un rituel comme ça qui n'existe plus.
Un rituel républicain.
Qui n'existe plus, il n'y a plus les gros bras de la CGT qui entourent les manifs, et maintenant ça n'existe plus, ils ont disparu. Et aujourd'hui, les syndicats, on ne peut pas dire qu'il y ait une incarnation, c'est-à-dire Philippe Martinez est parti, et Laurent Berger d'ailleurs en même temps a laissé des places à des jeunes femmes qui sont d'ailleurs, qui ont un parler très, très vigoureux, mais qui n'incarnent pas et qui ne sont pas reçus à l'Élysée, sauf une fois. Donc ça n'existe plus, voyez. Donc aujourd'hui, le 1er mai, c'est la fête des Black Blocs, et c'est chaque année, vous voyez, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui nageait tout nu, on a l'impression qu'entre eux, ils disent, tiens, c'est un bon millésime ou un mauvais millésime. Donc on va voir à la fin de la soirée, de dire où en sont les casques, qu'est-ce qu'ils auront cassé, qui auront blessé, le nombre de blessés, et puis après, ils s'envolent comme des nuées de moineaux, il ne se passe plus rien, et la justice, et ben voilà, il n'y a pas de...
Les nuées de corbeaux, peut-être.
Voilà, plus
les
nuées de
de gros corbeaux.
André Valigny, ancien ministre, est avec nous. On voit que les mots d'ordre de la manifestation sont phagocytés par ces violences. On parle des revendications avant la manif, puis dès que ça démarre, en réalité, ben voilà, forcément, l'attention est focalisée sur ces violences, oui, sur les casses, tout ce qui se passe du côté des casseurs.
C'est vraiment dramatique pour le mouvement social, ce qu'on appelle le mouvement social, pour le combat syndical, pour les travailleurs, les travailleuses, pour parler comme Georges Marché. Il y a des problèmes aujourd'hui dans le monde du travail, les conditions de travail, le pouvoir d'achat, et tout ça, on n'en parle pas aujourd'hui. On en a parlé un peu au début avec Marie-Lise Léon et Sophie Binet, qui ont fait une brève apparition au début de l'après-midi sur les chaînes de télévision et sur les radios. Et depuis, on ne parle plus que des black blocs, de la violence, de ceux qui cassent, qui veulent en découdre, qui veulent casser du capitalisme, de la puissance publique, qui veulent casser l'État, casser du flic. Et je pense que ça remonte encore plus loin que 2018, Catherine Ney. Je pense que c'est une évolution plus longue encore qui a abouti à la situation.
2018, c'était les lois El Khomri sur le 1er mai.
Ça a été le 1er mai le plus tragique. C'est 2018 au pont d'Austerlitz où là, on voyait ça quand même pour la première fois. Et même le préfet de police de Paris était quand même étonné.
Bien sûr.
De tant de violence.
Éric Revel, on a cette tension qui est toujours très présente. Place de la Nation, il est 18h10. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. On a la situation très instable encore. On sait que tout peut dégénérer à tout instant.
Oui, c'est ce que disait Jean-Christophe Couvi. C'est souvent en fin de manifestation, au moment où la manifestation doit se disperser après l'ordre donné par la préfecture de police, que les choses risquent de dégénérer. Mais au-delà, je m'interrogeais sur pourquoi une aussi faible mobilisation alors que les revendications sociales sont importantes. Alors Catherine Ney a sans doute raison, Henri Krasucki et Georges Chégui incarnaient des syndicats qui étaient puissants à l'époque. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les Français commencent pas à comprendre que au-delà de la grande et des grandes manifestations contre la réforme des retraites, en fait, les syndicats ne sont pas en mesure efficacement de changer leur vie. J'insiste sur la réforme des retraites parce que cette réforme des retraites, elle a abouti, elle a été prise par un 49-3, le gouvernement est passé en force. Mais en réalité, les Français, maintenant, épargnent de leur côté. Ils épargnent individuellement. Ils font de la capitalisation, les Français, à côté de la répartition. Comme si, à l'insu de leur plein gré ou volontairement, ils avaient compris que les syndicats ne peuvent pas changer leur vie. Et puis, sur le pouvoir d'achat, très bien, M. Valigny, les cotisations sociales, les impôts, vous avez contribué à faire monter à l'époque où vous étiez au pouvoir, pèse sur le pouvoir d'achat. Mais les Français savent aussi que ce qui va augmenter leur salaire, c'est l'entreprise. C'est pas, à part le niveau du SMIC, du salaire minimum, c'est pas une décision du pouvoir politique. Donc des syndicats affaiblis, des politiques dans lesquelles on ne croit plus, vous avez 18 000 personnes à Paris.
Alors, Tatiana Renard-Barzac est avec nous, vous êtes journaliste politique. On a 121 000 manifestants sur toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, extrêmement faible par rapport à l'an dernier, au 1er mai 2023, où il y avait à Paris 112 000 personnes, donc on n'est pas du tout sur le même étiage. Et pourtant, on a les mêmes scènes de violence, ou quasiment les mêmes, avec tout autant de black blocs et des charges de la police qui se déroulent en ce moment même, place de la Nation.
J'ai envie de vous dire, les revendications des black blocs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire venir casser du flic, venir s'en prendre, vous le disiez tout à l'heure, Catherine, au symbole en fait du capitalisme. À chaque fois, on détruit les abribus où il y a des pubs, on détruit les banques, c'est toujours la même chose. Et puis, prendre le mobilier urbain pour s'en servir comme arme. Tout à l'heure, vous voyez d'ailleurs un black bloc, avec Jean-Christophe, qui fouille dans une poubelle pour alimenter un feu.
Exactement.
Donc la question, c'est cette question de l'impunité de ces violences face à l'état de droit, face à ce qui représente l'autorité de l'État, c'est-à-dire les policiers, les pompiers, et puis l'impossibilité du coup pour les syndicats, mais aussi pour les politiques. Le premier, on voyait aussi en tête de cortège la gauche, alors, républicaine dont faisait partie André Valigny, qui prenait la parole.
On va rejoindre Tatiana, je vous interromps une seconde, c'est plus parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur la place de la Nation, notre équipe est sur place. Expliquez-nous ce qui se passe, parce qu'on voit beaucoup de CRS qui courent, qui tentent de lancer une charge. Expliquez-nous.
Oui, le rythme des charges des forces de l'ordre s'est accéléré depuis quelques minutes. À l'instant, charge assez massive des forces de l'ordre composées de CRS, mais aussi de la Brave M, qui est actuellement en train de se replier devant mes yeux. La Brave M, on le rappelle, c'est cette unité mobile qui est justement dédiée à la répression de l'action violente des manifestants. On voit encore un certain nombre de manifestants qu'on pourrait qualifier de pacifistes quitter la place de la Nation. Il ne reste finalement que les éléments les plus radicaux. Et à chaque fois qu'il y a une charge des forces de l'ordre, ils essuient un nombre de jets de projectiles assez important. J'ai vu il y a quelques instants un pavé assez immense tomber au pied des forces de l'ordre, mais ce sont aussi des bouteilles en verre qui leur tombent sur le bouclier de manière assez régulière. Ils tentent de faire évacuer et de procéder à la dispersion de la place de la Nation avec un rythme qui semble s'accélérer depuis quelques instants. On les voit toujours disposés aux artères qui entourent cette place de la Nation, que ce soit les CRS ou encore les gendarmes mobiles, et ils se succèdent pour aller au cœur de cette manifestation, parfois procéder à des interpellations, mais surtout tenter de faire partir les personnes qui ne souhaiteraient pas procéder à la dispersion.
Merci beaucoup pour ces explications, Sandra Buisson. On a un bilan du nombre de policiers blessés depuis le début de cette manifestation.
Oui, on est à 12 policiers et gendarmes qui sont blessés en urgence relative. C'est ce que nous indique la préfecture de police de Paris. Il faut se rappeler que pour le 1er mai 2023, on était à plusieurs centaines de forces de l'ordre blessées. Donc effectivement, il y a eu des scènes de violence, mais sans commune mesure avec ce qui s'est passé le 1er mai 2023. En 2023, il y avait 1500 à 2000 ultras. Aujourd'hui, on est à plusieurs centaines, mais on n'est pas à des milliers comme l'année dernière. Donc c'est vrai que ça a été compliqué à certains moments dans cette manifestation, mais les violences sont sans commune mesure avec l'an dernier.
Jean-Christophe Couvi, quel type de compagnie de policiers sont déployés à Paris? On parlera de la région.
Là, on voit les CRS avec les bandes jaunes. Il y avait tout à l'heure les compagnies d'intervention, c'est les bandes bleues sur les casques. Les casques un peu spéciaux et les équipements légers, c'est plutôt les Bravem. Et après, là pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu sur le dispositif. Les CRS, c'est plutôt, j'allais dire, vous voyez, des gros boucliers, c'est plutôt du lourd. C'est-à-dire qu'on est moins mobile que les Bravem, qui sont très légères, qui sont là vraiment pour aller très très vite d'un point A à un point B, pour arriver en petit commando, pour interpeller et repartir. Là, on se disperse, on met des épis, on essaie de surveiller, de regarder surtout quels sont les personnes qui lancent des objets. Et après, quand on a des instructions, effectivement, c'est de faire des bons offensives, de courir pour aller les interpeller et tout de suite les ramener derrière ce qu'on peut appeler une tortue, entre guillemets, ou une phalange pour se protéger. D'accord. Et c'est là où on a des collègues équipés en lourd qui nous protègent.
Vous vous entraînez spécifiquement pour
cette
situation?
Oui, les CRS sont spécialisés. Ils ont plusieurs fois dans l'année des neutralisations où justement ils s'entraînent pour que justement ils soient toujours au niveau, j'allais dire, d'interpellation et d'intervention. Mm-hmm. Les compagnies d'intervention à Paris aussi s'entraînent, mais elles sont très sollicitées. Donc des fois, il n'y a pas assez de moyens, de temps, justement, de neutralisation. Les Black Blocs, en fait, ont émergé en Allemagne dans les années 2000. Et pour les Français, les Black Blocs français ont fait leur haut fait de gloire, si je peux parler comme ça. C'était à Strasbourg en 2009, sur le sommet de l'OTAN. C'est là où ils ont gagné leur galon. Ils avaient même été, ils avaient impressionné tous les autres Black Blocs allemands, hollandais, italiens, par la violence de leurs actes. Donc on sait que nous, en France, on a des Black Blocs très violents. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont gagné leur galon. Et depuis, effectivement, chaque année, comme je disais, on laisse quelque part faire. Ils manœuvrent chaque année et on les voit tout le temps.
Même mode opératoire, systématique.
C'est pareil,
Catherine,
vous
l'évoquiez tout à l'heure. Cette façon la France n'arrive pas à les juguler.
Mais si vous voulez juguler des moments comme ça, il faut être comme à Moscou, où il y a des manifestants, ils sont
arrêtés. Nous ne sommes pas à Moscou.
Nous sommes en démocratie, mais ce qui est terrible, c'est que il y a des gens qui sont arrêtés, des Black Blocs, et puis ils ont des bons avocats, et puis après, quelle est la punition? C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de suivi. Et même, j'avais demandé au préfet l'allemand qu'est-ce qui se passe après, il ne savait pas quelle avait été la punition qui était tombée sur les gens qu'il avait arrêtés. Donc il y a un mauvais... Et même l'opinion ne le sait pas, forcément. Ouais, ouais. Et donc, s'il n'y a pas de publicité au nom du respect de la personne humaine, non mais c'est incroyable, je veux dire, comment... à la fois, mais ça incite, puisque c'est quand même impunité, ça incite les autres à manifester. Et en tous les cas, aujourd'hui, la fête du 1er mai, c'est la fête des Black Blocs. Et ce qui est extraordinaire, c'est aujourd'hui, il y a une foule qui est moins... D'abord, je pense que les gens viennent moins, parce que peut-être pourront-ils peur d'en prendre la figure. Ils savent que ça va se passer de cette façon, mais qu'il y ait 5000 CRS, policiers, qui soient mobilisés, et s'ils sont... moins que l'année dernière et un peu plus qu'en 2018. Je ne sais pas combien sont-ils, 600, 800, 1000, on n'en sait rien.
Les CRS.
Enfin, c'est incroyable pour le ratio, ce qu'il faut pour essayer de contenir des gens qui veulent absolument
des couvies. Et après, on part sur le terrain.
Aujourd'hui, il y avait 12 compagnies de CRS sur Paris, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soir, il y a aussi le match au Parc des Princes, avec Dortmund, donc des supporters allemands, très virulents aussi, etc. Donc en fait, pour les policiers, c'est une grosse journée.
C'est en Allemagne, le match.
Ah, c'est en Allemagne, pardon.
C'est en Allemagne.
C'est match retour. Mais même, il y avait quand même 12 compagnies de CRS. Et je m'enflamme.
C'est combien une compagnie?
Une compagnie, c'est à peu près 70 personnes effectifs. Mais je veux dire, on le sait. Enfin, tout à l'heure, en même temps, regardez, il y avait le. Nous, on était avec Force Ouvrière, Place d'Italie. Il y avait 4 policiers. Il n'y a pas eu un débordement, tout s'est bien passé, c'était tranquille. Pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas des black blocs et il n'y avait pas des personnes qui venaient.
18h20, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec cette manifestation du 1er mai qui se termine dans la violence, place de la Nation à Paris. L'une de nos équipes est sur place, la Brave M, une unité de la police, est en première ligne, c'est bien cela?
Oui, effectivement, Laurence, ici, c'est une véritable coopération entre policiers, gendarmes et les différentes sections de ces derniers, à commencer par la Brave M, qui, munie de ses casques de moto, de petits boucliers, sont beaucoup plus mobiles sur cette place de la Nation dès lorsqu'il faut charger les éléments radicaux qui leur jettent des projectiles. Ils coopèrent avec les forces de gendarmerie mobile, mais également les policiers, dont certains sont équipés également, de petits boucliers et d'équipements un peu plus légers que les gendarmes qui ont de véritables boucliers de plus d'un mètre de haut. C'est des équipements qui leur permettent d'accéder plus facilement à ces éléments radicaux qui se trouvent au centre de cette place de la Nation, place de la Nation où doit se terminer cette mobilisation du 1er mai. À l'heure à laquelle je vous parle, le cortège est toujours en train d'arriver au compte-gouttes sur cette place de la Nation. Les manifestants pacifistes la quittent petit à petit, mais il reste un noyau dur qui tente de se reconstituer minute après minute. Ce sont ces éléments radicaux, tout de noir vêtus, la plupart du temps avec une cagoule ou des lunettes très foncées, et qui se munissent de projectiles, de pierres, de bouteilles, et qui assènent de la violence envers les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène et donc de charges à peu près toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Pour le moment, vous l'entendez sûrement autour de moi, ce sont des intimidations de la part des éléments radicaux en direction des forces de l'ordre. Mais nul doute que d'ici quelques secondes, ces derniers devraient donner l'assaut sur les éléments radicaux.
Et bien sûr, vous restez avec nous, vous nous prévenez à l'antenne dès qu'il se passe quelque chose. On voit énormément de projectiles voler en direction des forces de l'ordre, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1. Sandra Buisson, service police-justice de CNews. Le nombre d'interpellations augmente évidemment au fil de cette manifestation.
À mesure que les violences et les tentatives de dégradations sont commises, le nombre d'interpellés augmente. On est à 45 à 18h donc pour Paris. Des interpellations, un nombre qui est quand même largement inférieur à celui de l'année dernière. 305 interpellations au total pour la manifestation parisienne. Et effectivement, là, l'objectif, comme on vous a décrit, c'est de permettre la dispersion de cette manifestation et que les individus radicaux ne se reconstituent pas en bloc pour procéder à des dégradations et des violences.
Bien sûr. Tatiana Andarmazal, vous voulez rajouter quelque chose tout à l'heure avant qu'on reparte sur le terrain?
Oui, je voulais dire deux choses. D'abord, je remarque là qu'en fait, ça se passe à Paris, mais ça se passe aussi à Lyon.
À Nantes.
À bas l'état policier, à Nantes, à Toulouse. Voilà, il y a plusieurs échauffourées un peu partout en France aujourd'hui, à l'occasion de ce 1er mai. Et par ailleurs, vous faisiez tout à l'heure un parallèle avec un match de foot. Faisons-le avec les hooligans, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on interdit les hooligans de paraître dans certains matchs lorsqu'ils sont fichés et considérés comme étant dangereux? Vous disiez tout à l'heure, on sait maintenant qui sont ces black blocs. Il n'y en a pas 15 000. On les voit partout. Ils vont au sommet du G7, du G20, de l'OTAN, etc. On sait qui c'est toujours la même bande de 200, 500 black blocs. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne se donne pas les moyens, l'arsenal juridique, pour justement leur permettre, ou plutôt leur interdire, de paraître dans ces manifestations lorsqu'on sait qu'ils sont particulièrement dangereux, qu'ils ont déjà commis des infractions et qu'ils ont déjà caillassé, si j'ose dire, du policier lors de manifestations précédentes? Pourquoi est-ce qu'on s'empêche de cela? Je rappelle quand même que Bruno Retailleau, chef de file des sénateurs LR, avait fait un projet de loi en ce sens, qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel.
Voilà.
Mais lorsqu'on voit ces images,
on en revient toujours
on se dit peut-être qu'il y a quand même un moyen de contourner cela, parce que là, on empêche aussi des manifestants de manifester paisiblement. Le droit à manifester, il marche dans les deux sens. Hein. Il marche dans les deux sens.
C'est pas... Alors, Sandra, peut-être une précision.
La loi anti-casseur, effectivement, c'est 2019. Ça avait été l'article sur l'interdiction administrative de manifester a été censuré. Or, pendant plusieurs années, on n'en a plus entendu parler. L'année dernière, au vu de ce 1er mai qui avait
Gérald
été
Darmanin
extrêmement
avait
violent, Gérald Darmanin avait dit qu'il allait réfléchir à nouveau à reconstruire un nouveau texte pour essayer de l'écrire différemment pour que ça puisse passer au Conseil constitutionnel.
C'était il y a un an.
C'est toujours en cours.
C'est toujours en cours, ça n'est pas sorti encore des...
Bon, en attendant, on peut toujours dire que les Black Blocs sont un peu les violents utiles des pouvoirs en place, hein, quand même, hein, parce que bah, moi, je me pose toujours la question, si vous voulez. Regardez comment les démocraties ont reculé devant les Black Blocs. Jean-Christophe Couvi parlait un peu de l'histoire des Black Blocs. Je regardais la première énorme manifestation ultra-violente, je crois qu'il y avait eu 600 blessés, c'était au G8 de Gênes. Et pourquoi je vous dis que les républiques, les démocraties reculent? Parce que c'est la dernière année où on organisait le sommet des 8 pays les plus riches dans une ville. Ouais. Après, on a cantonné, on a exfiltré ces sommets dans des endroits inaccessibles. Et je me souviens d'un grand sommet à Kananaskis, à G8, où tout avait été contraint au fond d'une montagne canadienne pour éviter que les blagues. Donc en fait, les démocraties ne font que reculer.
C'est plus difficile pour le 1er mai.
Catherine,
le 1er mai en France, de les mettre dans des endroits reculés.
Mais ces Black Blocs, c'est pas
si on les connaît. Alors, voilà, si on les connaît, après tout, qui empêche qu'on leur passe un coup de téléphone, puisqu'on a leurs coordonnées 8 jours avant pour leur dire qu'ils sont surveillés de près, qu'on fera. Enfin, je sais pas, il y a toujours un moyen. Parce que
ils savent qu'ils sont surveillés de près. Hein.
Comment?
Ils le savent.
Ils savent, bien sûr.
Oui, ils savent très bien qu'on ne peut pas les empêcher de manifester.
André Valigny sur Europe 1 et sur CNews.
C'est la question que je posais au début de l'émission. On les connaît pour la plupart, pas tous, mais on les connaît. Les services de police, les services de renseignement les connaissent. Et on ne peut pas les empêcher de venir au nom de la liberté, sacro-sainte, heureusement, la liberté d'aller et venir. Donc il faut trouver une formule juridique, et Sandra Buisson disait que Gérald Darmanin était en train d'y réfléchir, une formule juridique qui passe le barrage, si j'ose dire, du Conseil constitutionnel. Mais attention, il faut quand même préserver nos libertés publiques, parce qu'on en profite tous de ces libertés d'aller et venir. Donc il faut trouver un réglage très subtil.
De casser, de blesser les
policiers. Non, mais justement,
il faut trouver
le réglage.
Le
réglage subtil entre la liberté d'aller et venir et puis la nécessité de se protéger contre les casseurs.
Un tout petit mot, Jean-Christophe, pour avoir repart sur le terrain.
La réponse est simple, ça doit passer par une procédure judiciaire. Puisque l'administratif, effectivement, on peut pas empêcher des gens d'aller manifester. Sur un match de foot, on peut parce que c'est du privé. Si je vous fais très court, hein, sur les manifestations, on peut pas. Il faut que ça passe par un juge.
Eh ben, oui, mais justement, Tatiana tout à l'heure disait que les hooligans, eux, ne peuvent pas aller dans certains stades, notamment
parce que c'est des enceintes privées.
C'est privé.
Oui, sauf qu'ils sont
privés.
Par exemple,
faut savoir que quand il y a un match de football, les policiers qui sont autour du stade, c'est du privé. C'est-à-dire que les policiers, normalement, enfin, les organisateurs payent la police
les compagnies
venir.
Alors, on peut peut-être envisager, je réfléchis à haute voix. On peut peut-être envisager qu'après une condamnation judiciaire, cette condamnation judiciaire d'un Black Bloc soit assortie d'une interdiction de manifester pendant un an ou deux.
Ça s'appelle une interdiction judiciaire de manifester. Mais ça existe en judiciaire. Voilà. Il faut déjà avoir.
Il faut que le juge.
Alors, allez pointer au commissariat comme font les
juges.
Mais là, allez pointer au commissariat avant.
Alors, pas tous en même temps, parce qu'on comprend plus rien.
On sait très bien que les ultras les plus expérimentés sont rarement interpellés. Donc, c'est pas eux qu'on peut empêcher de manifester en judiciaire. Et donc, c'était l'intérêt de l'interdiction administrative. C'est de savoir que quelqu'un est connu des renseignements comme étant un radical violent et pouvoir prendre une mesure en amont.
18h28 en direct sur CNews et sur Europe 1, on va rejoindre l'une de nos équipes, Place de la Nation. Notre caméraman, notre journaliste reporter du Maj, a été la cible de tir de cailloux de la part des Black Blocs. Vous allez nous expliquer, est-ce que vous êtes blessé? Que s'est-il passé exactement?
Oui, bonsoir Laurence. Alors, fort heureusement, mon journaliste reporter d'images qui m'accompagne ici Place de la Nation était muni d'un casque sur sa tête et donc il n'est pas blessé. Mais effectivement, ce sont des Black Blocs qui lui ont lancé une pierre sur la tête qu'il visait. Ils visent les forces de l'ordre depuis maintenant 30-40 minutes et font des charges incessantes. Mais pas que, les journalistes aussi sont manifestement pris pour cible. Alors, les forces de l'ordre, eux, doivent répliquer quais en lançant des gaz lacrymogènes pour essayer de disperser ces éléments radicaux, mais qui reviennent à la charge juste après avoir été dispersés. Nous sommes effectivement sur une des artères de cette place de la Nation, qui est le point de chute, le lieu d'arrivée de cette manifestation, alors que le cortège pacifique, lui, est en train d'arriver. Les Black Blocs profitent de cette concentration pour détruire des abribus, lancer des projectiles sur les forces de l'ordre et donc sur également le journaliste reporter d'images qui m'accompagne. Mais nous ne sommes pas blessés, heureusement, Laurence, puisque nous avons le casque bien sur la tête.
Merci, mais prenez soin de vous parce que voilà, on sait que vous prenez des risques sur le terrain, journalistes de toute radio, télé compris, qui sont des cibles au même titre que les policiers de ces éléments violents et radicaux qui sont toujours très présents sur cette place de la Nation. Beaucoup de mouvements de troupes policières pour tenter de juguler ces phénomènes violents, permettre aux manifestants pacifiques aussi d'évacuer les lieux sans être blessés ni incommodés par les gaz lacrymogènes. Il y a eu aussi un peu précédemment lors de ce cortège du mobile mobilier urbain qui a été cassé, une camionnette a été incendiée lors de ce défilé du 1er mai. Alors évidemment pas dans le cortège syndical, mais dans le pré-cortège qui est formé essentiellement d'éléments radicaux. Les pompiers ont tenté de circonscrire cet incendie d'une camionnette qui aurait pu se propager à d'autres voitures et aux habitations, parce que la densité urbaine à Paris est évidemment extrêmement importante. On va juste écouter le témoignage de la propriétaire de la camionnette qui a pris feu. Elle explique comment elle a réagi devant la dégradation de son véhicule. Écoutez-la.
Les gaz lacrymaux sont en train de travailler dans mon atelier juste à côté. Et puis là, il y a eu trop de monde, CRS. Et c'était le début de la manif. Et là, il y a eu pas mal de casses, beaucoup de pétards. Et j'ai fait mince le camion. Et il y a eu les flammes. Et c'est parti trop vite. On a voulu essayer d'éteindre avec des seaux d'eau, mais les CRS nous ont dit non, on n'y allait pas. Et après, on a vu le camion cramer. Quoi. Voilà. Et je devais travailler demain avec, livrer des clients. Je vais retarder la livraison. J'ai un peu de matériel dedans, mais on va voir ce qu'il y a. J'ai appelé l'assurance, on va voir comment ça se passe.
Voilà, et cette dame donc est artisan, c'est une restauratrice de vitraux, petit salaire évidemment, et c'est ces gens-là qui sont, Catherine, les victimes de ces violences. C'est absolument navrant et honteux.
Mais oui, mais tout notre débat depuis 20 minutes dit qu'il n'y a pas de solution, puisqu'on est dans un pays libre et que toutes les décisions un peu rudes qu'il faudrait prendre, on ne les prend pas. Alors,
on évite. On évite de prendre des décisions qui fâchent, Jean-Christophe Covici.
C'est compliqué. En plus, on est dans un tempo politique. Alors, ça, de surcroît, il y a des élections bientôt. Donc, tout le monde surfe sur la tranquillité. Parce que si, imaginez qu'il y a un manifestant, même radical, je veux dire, surtout radical, un black bloc, qui soit grièvement blessé ou un Malik Houssekine, et là, c'est fini. On plie les boutiques et il y a encore une crise. Donc, en fait, depuis, c'est vrai qu'à chaque fois, les gouvernements sont tétanisés dès qu'il y a des mouvements de foule. Ça, c'est la crainte de tout le monde. Préfets, des gouvernants, voilà. Bien sûr qu'on a le droit de manifester et on manifeste, et au contraire, nous, on est là pour protéger les manifestants. Mais quand on a des éléments subversifs qui sont là vraiment pour aller, je veux dire, au contact, pour se battre, pour balancer des objets pour faire mal et des fois même tuer, effectivement, on se pose la question. On est jusqu'où la gradation justement de cette force, jusqu'où on accepte. Je veux dire, à un moment donné, on a aussi des véhicules lanceurs d'eau. On arrive, on arrose, et puis
dans certains cas, vous les sortez.
Mais on les sort, mais encore une fois, c'est sur instruction des préfets. Et donc, c'est encore le politique qui a la main dans une manifestation, la gradation de l'utilisation de la force. Donc, on accepte un certain désordre jusqu'à un moment donné où on estime qu'on est arrivé au bout. Et là, on siffle la fin de la récré et on utilise tous les moyens pour établir l'ordre.
Bon, pour l'instant, l'ordre n'a pas été donné par la préfecture de police de Paris et Laurent Nunez d'évacuer la place.
Il va y avoir un énorme orage, puisque c'est ce qu'annonce la météo.
Là, dans ce cas, c'est très efficace.
C'est la solution. Pour disperser.
Effectivement, la pluie dissuade souvent les manifestants violents qui préfèrent rentrer chez eux. Ce sont d'ailleurs leur sociologie est assez intéressante, Jean-Christophe Couvi, des gens de ces black blocs là.
Oui,
ce sont pas forcément des enfants d'ouvriers.
Non, mais en fait, on voit bien, c'est souvent des fils à papa, et il y a aussi des fils de profs. Enfin, moi, je vais pas faire tout le truc, mais je veux dire, c'est pas des enfants défavorisés. Il y a très peu de chômeurs. chômeurs quand on interpelle et même quand on regarde les services de renseignement nous disent c'est pas les chômeurs ni les gens défavorisés qui viennent, c'est des gens oui d'un certain milieu moyen voire plus élevé qui viennent pour s'encanailler parce que ils ont une idéologie, parce que c'est leur révolution à eux, ils portent voilà, c'est à une époque c'est vrai qu'on avait deux prismes, on avait le bloc entre guillemets soviétique, le communisme, de l'autre côté les démocraties, le capitalisme. Aujourd'hui on n'a plus entre guillemets qu'une seule vision, c'est le capitalisme, et certains veulent s'inventer une nouvelle révolution, un nouvel idéal, mais qu'ils aillent juste visiter un petit peu ce qui se passe dans les pays de l'Est et voir les stigmates que certains régimes ont laissés, ils verront bien qu'ici on est très très bien quand même.
Ok. Il est 18h33. On est toujours en direct sur CNews et sur Europe 1 avec cette situation très instable, place de la Nation à Paris. On va bien garder le lien avec nos équipes qui sont sur place. J'aimerais aussi évoquer ce qui s'est passé à Saint-Étienne ce matin, puisque Raphaël Glucksmann, le candidat place publique Parti Socialiste, a tenté de rallier le défilé du 1er mai à Saint-Étienne. Il en a été exfiltré avec beaucoup de violence. Il a été molesté puisqu'il a reçu de la peinture. On va peut-être écouter la façon dont les manifestants l'ont sorti du cortège. Je ne sais pas si on a la séquence qu'on peut écouter. Et ensuite, on écoutera ce qu'il en a dit puisqu'il a pointé très clairement du doigt la responsabilité de la France insoumise. D'abord, on écoute les échanges entre lui et les manifestants.
Franchement, je ne les connais pas personnellement, donc c'est compliqué. On va voir qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution Permanente et de la France Insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique. Ce n'est pas la nôtre. Nous, on est des démocrates de combat, des démocrates jusqu'au bout des ongles. Et on exclut a priori toute forme de violence physique et verbale de la confrontation politique qui fait vivre la démocratie. On fait une campagne où on va dans les usines et où on va manifester le 1er mai. Ces gens sont des gens qui ne sont pas des démocrates. C'est tout, c'est pas des démocrates. On le voit dans le comportement interne de leur parti, dans leur structuration, dans leur discours, dans leur violence. Et nous, on rompt avec ça. Enfin, ce n'est pas nos amis, ce ne seront pas nos camarades. Et ils font beaucoup de tort aux travailleurs et à la cause du progrès social.
Voilà pour les paroles de Raphaël Glucksmann. Attendez, Parti Socialiste et Place Publique, qui dénonce les insoumis. Jean-Luc Mélenchon a, dans un premier temps, dit qu'il désapprouvait totalement l'expulsion de Raphaël Glucksmann avec violence du cortège de Saint-Étienne. Et puis après, il s'est énervé au fil de la journée. Il a multiplié les tweets jusqu'au dernier. Raphaël Glucksmann, excusez-vous, vous avez accusé LFI de votre expulsion de la manif du 1er mai. Nous avons récusé, vous et les chefs du PS ont continué sur la base de vos accusations. Ce sont les jeunes communistes du 42 qui ont revendiqué cette action. Après ceux du Nord, chez Fabien Roussel, respectez vos adversaires en apprenant à les connaître. Voilà pour le. En fait, c'est une stratégie du chaos que mène la France Insoumise.
Je pense que Mélenchon, il sent que le tapis électoral se dérobe un peu sous ses pieds, là, si vous voulez accuser les communistes, je ne sais pas. Mais surtout, moi, ce qui me. Évidemment, il faut condamner la façon dont Raphaël Glucksmann a été exfiltré de cette manifestation à Saint-Étienne. Mais si vous voulez, ça m'amuse quand même un peu, parce qu'au moment des élections législatives, la NUPES, forte, triomphante, les socialistes étaient contents d'avoir le soutien de la France Insoumise pour se faire élire un peu partout. Si vous voulez. Donc aujourd'hui, ils s'aperçoivent que LFI est devenu radical et extrémiste. Bon, très bien. Mais enfin, moi, je trouve ça un peu fort de café quand même.
J'entends. Catherine, quelle est votre réaction en entendant Raphaël Glucksmann accuser la France Insoumise?
Je trouve qu'il a bien réagi. Il a bien réagi de manière à moitié amusée et un peu exaspérée. Et je veux dire, est-ce que c'était les communistes ou pas? Mais ce sont tellement les manières de LFI qui veut créer du. Que voilà, en tous les. Et on voit bien que Mélenchon ne tient pas ses nerfs et que en ce moment c'est à la fois une fausse réaction de force qui révèle en fait un début de fragilité. Voilà. Absolument. Et que toujours l'orage sous le sourcil, toujours en colère,
c'est le bruit à la fureur, mais ça ne marche plus visiblement dans les intentions de vente, puisque André Valigny, la liste de Raphaël Glucksmann est dans une phase ascendante, alors que celle des Insoumis dans une phase descendante. Ça aussi explique cela ?
Oui, bien sûr, je pense que les Insoumis sont très en colère actuellement contre les socialistes. c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave à cause des sondages qui montrent que il y a une dynamique du côté de Glucksmann et du PS, et une dynamique inverse du côté des Insoumis qui n'arrivent pas à décoller des 6 ou 7%. Moi, je pense que après les européennes, il va y avoir une clarification à gauche, que la NUPES a du plomb dans l'aile, et tant mieux. Moi, je n'ai jamais été partisan de la NUPES. Donc, je pense que ces européennes vont d'abord servir au PS à relever la tête, et en plus, vont servir aussi à clarifier les choses et à faire en sorte que la NUPES soit derrière nous.
Mais d'ailleurs, Mélenchon a dit que la NUPES était finie et qu'il était très content de s'être séparé de ses alliés. Alors, voilà.
En tout cas, il multiplie les invectives. On a été rejoint par Georges Bensoussan. Bonsoir, Georges Bensoussan.
Bonsoir.
On est en pleine, vous êtes historien, on est en pleine édition spéciale consacrée à ces manifestations du 1er mai qui se terminent dans la violence avec des éléments radicaux. On a entendu Raphaël Glucksmann qui accusait la France insoumise d'avoir organisé son exfiltration violente des manifestations du 1er mai. Il dit que ce ne sont pas des démocrates. Vous dites qu'effectivement, il y a un vrai risque du côté du parti de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, je l'ai dit au micro de votre collègue Sonia Mabrouk, il y a deux semaines. J'ai dit que Jean-Luc Mélenchon faisait penser à Doriot, par l'aspect populiste, provocateur, cherchant le chaos, parce que c'est ça la stratégie de Mélenchon. Et lui, alors là, en l'occurrence chez Mélenchon, racolant bien sûr dans les banlieues islamisées, avec une stratégie très particulière, en surfant sur les passions antisémites, en clair. On qualifie pudiquement d'antisioniste, en réalité il s'agit bien d'un antisémitisme. Je ne dis pas de Mélenchon, hein. Mais ils surfent sur des passions antisémites dans certains quartiers de certaines banlieues islamisées.
Et ça veut dire que ce n'est pas un hasard si Raphaël Glucksmann a été sorti de cette manifestation.
Ça c'est un point. Je ne peux
pas. À Saint-Étienne, Catherine Ney. Non, mais certains ils voient un symbole aussi.
Ben, peut-être.
Certains ils voient un symbole.
Enfin, ce qui est drôle, M. Bensoussan compare Mélenchon à Doriot, mais lui avec ce Fuad Chéricou, ils avaient traité le leader communiste.
Monsieur Roussel.
Pardon, oui, de Doriot.
Absolument, je me rappelle. On va juste, je vous donne la parole dans un instant, Georges Bensoussan. On repart sur le terrain, rejoindre une de nos équipes Place de la Nation. Que se passe-t-il en ce moment? On a l'impression que la situation se calme. Il y a quand même un certain nombre de drapeaux palestiniens que l'on voit désormais être brandis par les manifestants.
Oui, toujours ces drapeaux palestiniens, toujours les mêmes depuis le début de cet après-midi, dans le cortège parisien, mais également ici, Place de la Nation. Mais c'est vrai que l'on assiste avec mon collègue ici à un moment d'apaisement, avec des forces de l'ordre qui ont posé les casques. Une ambiance qui contraste avec ce qui s'est passé il y a moins de 20 minutes maintenant. Ces affrontements violents qui ont une nouvelle fois émaillé cette fin de mobilisation, avec des jets de bouteilles, des jets de canettes, de pierres également, et ces charges successives de la Brave, des CRS, des gendarmes également, avec des jets de gaz lacrymogène évidemment pour disperser ces éléments radicaux que nous ne voyons plus pour le moment avec mon caméraman, des éléments radicaux qui potentiellement sont à un autre endroit sur cette place de la Nation, puisque je vous le rappelle, elle fait 50 000 mètres carrés, donc autant vous dire que difficile d'être à tous les endroits à tout moment, mais les forces de l'ordre qui restent en place à chaque rue adjacente de cette place de la Nation avec ce moment d'apaisement, ces forces de l'ordre qui ont posé leur casque mais qui le remettent à l'instant même où je suis en train de vous parler. Alors est-ce que d'ici quelques instants il y aura de nouveaux moments de tension? Nous l'ignorons pour le moment et évidemment nous ne manquerons pas de vous en faire part sur Europe 1 et sur CNews.
Merci beaucoup Georges Bensoussan, vous êtes historien, on voit il y a eu dans tous les cortèges des drapeaux palestiniens, pas des centaines mais il y en a. Maintenant c'est systématique depuis quelques semaines.
Oui, apparemment. Enfin, c'est toujours ciblé. C'est toujours la même clientèle électorale. C'est toujours les filles. Hein,
absolument.
Qui a fait de la Palestine une cause christique, une cause sacrée d'où dépend le salut de l'humanité. Hein. Bon. Mais là-dessus, on peut dire que, premièrement, que viennent faire les drapeaux palestiniens dans le 1er mai? Que vient faire la cause palestinienne dans les élections européennes avec Rima Hassan, qui est en position d'être élue? Et sur le fond, on voit bien la stratégie électorale. La stratégie électorale, c'est de rameuter toute une clientèle d'origine maghrébine, qui est très sensible à la cause palestinienne.
Mais est-ce que ça peut fonctionner? On voit que dans les intentions de vote, elle est plutôt en phase descendante, cette liste des insoumis.
Non, je pense que ça ne fonctionnera pas, sur le fond. Non, les forces profondes en France, il faut lire pour ça Jérôme Fourquet, Christophe Guillou, etc., les forces profondes ne sont pas du tout du côté mélenchonien. Mélenchon, c'est, si vous voulez, la petite classe moyenne, je ne parle pas de ces banlieues islamisées, mais la petite classe moyenne, très frustrée socialement, qui est mue par un ressentiment profond. C'est en cela, d'ailleurs, il avait un lien avec Doriot. Mélenchon, c'est l'homme du ressentiment. Et sa clientèle sociale, c'est cette base-là. Cette petite bourgeoisie de Bac plus 2, Bac plus 4, qui a un ressentiment social profond, qui en veut au monde entier, de la place qu'elle n'a pas et qu'elle pense devoir.
Il y a donc ces drapeaux palestiniens, il y a aussi ce conflit qui fait irruption en permanence dans notre pays entre Israël et l'organisation terroriste du Hamas. Mathilde Panot et Rima Hassan, que vous évoquiez, ont été convoqués cette semaine pour apologie du terrorisme. Il y a eu beaucoup de communication, de gesticulation des insoumis autour de cela. C'est une importation du conflit à vos yeux ?
Oui, mais c'est pas nouveau. C'est une importation du conflit. Encore une fois, on sait très bien pourquoi ils le font. C'est pas nouveau. Et effectivement, les slogans qui ont été mis en avant par Rima Hassan, j'ai dit, encore une fois, chez Sonia Mabrouk, c'était des slogans génocidaires. Je le maintiens. Pourquoi ? Parce que parler de la Palestine libre, du fleuve à la mer, ça implique la destruction de l'État d'Israël. Mais elle, en bonne juriste et en bonne sophiste, elle vous dira non, ça signifie un État unique où Israéliens et Palestiniens vivront ensemble.
Exactement, c'est ce qu'elle a dit, Madame Hassan.
La question est la suivante. Est-ce qu'elle a demandé aux Israéliens s'ils le voulaient ? Est-ce qu'elle s'est enquise du désir des Israéliens ? Bel et bien, ben, évidemment non. Et après un tel passé de conflit entre les deux peuples, vous imaginez la coexistence possible ? Non, il faut deux États séparés pour deux peuples. Donc, l'idée d'un seul État, ça signifie, en termes subliminaux, la fin de l'État d'Israël par submersion démographique. Donc, la destruction de l'État. Est-ce qu'on peut imaginer que ça se fera pacifiquement ? À la lumière du 7 octobre, on peut imaginer qu'il y aura des massacres de très grande ampleur. Mm-hmm. Je voudrais quand même vous citer quelque chose qui...
Allez-y, Jean-Germaine Toussaint.
Le représentant du Qatar, la Ligue arabe, a déclaré hier... Le 7 octobre n'est qu'un prélude à l'anéantissement de l'entité sioniste à la fin de leur État. C'est clair. C'est dit clairement.
C'est dit clairement.
Voilà.
Ouais. Catherine Ney, c'est une analyse évidemment qui fait froid dans le dos.
Qui fait froid dans le dos et dans le fond que les Israéliens eux-mêmes n'avaient pas vu venir. Et on avait la pression, au contraire, qu'il y avait une sorte d'ouverture avec tous ces Palestiniens, 18 000 qui venaient travailler tous les jours en Israël. On avait l'impression qu'il y avait une paix, comme ça, ce que certains généraux israéliens trouvaient suspect. Ils avaient alerté Netanyahou, qui les traitait de Wagner, et lui, il était tout à son... les accords d'Abraham, mais qui ne sont pas caducs, si on en croit ce que... Voilà.
Georges Mendelssohn.
Après 6 mois de guerre, effectivement, les accords d'Abraham ne sont pas caducs, donc effectivement, ils sont pérennes. Mais penser que les accords d'Abraham pour enterrer la question palestinienne, c'est une naïveté.
Oui, mais c'est une naïveté.
Alors, André Valigny.
Dont tout le monde a été un peu coupable. Parce que c'est vrai que la cause palestinienne était passée un peu au second plan, et les pays arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats, avaient noué des relations avec Israël, alors que la cause palestinienne dans les profondeurs du peuple palestinien restait très vivace.
J'étais en Israël en décembre 2020 au moment des accords d'Abraham et on m'a interrogé sur la radio israélienne Kan. On m'a interrogé sur les accords d'Abraham et j'ai jeté un froid quand j'ai dit bon, c'est très bien, mais ça ne règle absolument aucun problème de fond.
Exactement.
Bon, évidemment, je n'étais pas du tout dans le consensus national. Bon, sur le fond, la cause palestinienne, elle est centrale.
Et oui.
On peut savoir comment la résoudre. Netanyahou porte une très lourde responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre parce que l'appareil militaire israélien. Était conscient de la menace. Et on sait très bien que la stratégie de Netanyahou, qui est assez suicidaire, a consisté à affaiblir l'autorité palestinienne pour renforcer le Hamas, en pensant que le Hamas ne passerait jamais à l'action.
Et vous publiez, je le signale, les origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. On a toujours cette situation tendue, place de la nation, avec énormément de forces de l'ordre qui se regroupent. Jean-Christophe Couvi, on a le sentiment que ça y est, ils sont en train de peut-être de commencer l'évacuation totale de cette place, ou pas encore ?
Alors, on voit les grandes manœuvres, on voit la CRS 8, là, vous voyez, ils sont équipés assez légers, des petits boucliers, ils ont des casques différents des autres, puis les CRS classiques. Donc on voit bien qu'effectivement, tout le monde se met en ligne et on va ratisser la place. C'est-à-dire qu'on va avancer petit à petit pour faire évacuer les gens, en disant que maintenant, voilà, la récré est finie, il va falloir rentrer à la maison et puis profiter d'allumer CNews pour voir les news.
Exactement, voilà. CNews et Europe 1 à la radio. Notre équipe est Place de la Nation et évidemment, va peut-être nous confirmer ce que vous nous dites. Les CRS sont en train de se regrouper, en tout cas les forces de l'ordre, pour peut-être évacuer la place, c'est bien cela ?
Je ne sais pas, mais on voit en tout cas qu'il n'y avait pas beaucoup de monde.
Oui, exactement.
Allez-y.
Oui, exactement, Laurence, les CRS qui se sont regroupés, ils sont tous situés à proximité de chacune des rues adjacentes de cette place de la Nation, alors que là, vous le voyez, en ce moment même, il y a quelques manifestants qui sont en train d'agiter des fumigènes, mais en réalité, la tension, elle, est retombée depuis maintenant 20 minutes, et le cortège pacifique, lui, vient d'arriver sur place, ici, les tout derniers manifestants, ils se sont donc
regroupés sur ces pelouses. Et puis, signe qui ne trompe pas, les Black Blocs qui sont vêtus de noir de la tête aux pieds ont commencé à se rhabiller en civil, signe qui sont en train de quitter les lieux et que effectivement les CRS vont procéder à une évacuation de cette place de la Nation. Alors que vous voyez là, alors que pour décrire ces images, voilà des fumigènes, quelques fumigènes qui sont tenus par des manifestants, mais voilà, la situation est en train de revenir au calme ici place de la Nation.
Merci pour ces précisions. Georges Bensoussan est avec nous, historien. On voit que ces Black Blocs n'ont pas de revendications politiques, si ce n'est l'anarchie ou le chaos. La cause palestinienne n'est pas arrivée jusqu'à eux, je dirais.
Jusqu'à eux, c'est-à-dire
jusqu'à leurs revendications. Ils sont juste là pour la violence, pour la violence.
Oui, bien sûr, la cause palestinienne. Enfin, pour cela, en particulier, les Black Blocs, etc. Oui, bien sûr, c'est un alibi.
C'est un alibi, c'est clair, voilà.
Oui. Pour les autres, pour pour ceux de Sciences Po, des universités américaines, etc., il s'agit vraiment d'autre chose. Là.
C'est ça. Alors justement, on garde évidemment présent à l'esprit ce qui se passe place de la Nation. Il y a eu beaucoup d'interpellations aussi, et dans les facultés américaines, que ce soit à Columbia, à New York ou UCLA en Californie, des évacuations par les forces de l'ordre. Et on a connu une semaine très tendue aussi entre Sciences Po et la Sorbonne, avec des étudiants pro-palestiniens, en tout cas des militants pro-palestiniens, qui ont tenté de bloquer nos universités.
Oui, mais alors, ça traduit essentiellement, ça traduit rien sur le conflit israélo-arabe, ça traduit beaucoup sur le délitement de l'État français et sur la désinstitutionnalisation de la société. Ce qui s'est passé, à savoir que 300 abrutis bloquent Sciences Po, que 300 abrutis bloquent Sorbonne, alors qu'il y a des milliers d'étudiants sur ces campus, ça signifie que la jeunesse est par-dessus tout et avant tout l'âge des engouements totalitaires. Il faut replacer ça dans les stupidités qui ont émaillé la révolution culturelle chinoise et l'engouement de toute une jeunesse qui a applaudi Cuba, qui a applaudi les Khmer Rouges, qui a applaudi la révolution culturelle chinoise. Là, on continue dans la stupidité. La Palestine, cause sacrée de l'humanité. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point plus grave, c'est que les institutions qui auraient dû réagir, Sciences Po, elles ne l'ont pas fait. Et elles prouvent là la désinstitutionnalisation profonde de la société, c'est-à-dire que tout est possible en matière de chaos. À savoir que quand on regarde la direction de Sciences Po, vous savez à quoi on pense ? On pense au film d'Harry Cécédoui, Le chagrin et la pitié. Ces gens-là nous inspirent du chagrin et de la pitié. Si on veut comprendre l'étrange défaite, Marc Bloch, 1940, on n'a qu'à regarder ces gens-là. Et on comprend comment les élites peuvent être responsables d'un chaos. En deux temps, trois mouvements, il était facile de remettre ces gens-là dans le droit chemin et de rouvrir Sciences Po et de ne pas laisser le chaos s'installer.
Ça n'a pas été fait.
Et je sais en haut lieu, je ne peux pas citer son nom bien sûr, mais un professeur de Sciences Po qui est menacé lui-même, qui reçoit des mails demandant son renvoi. Il en a fait part à la direction. La direction n'a rien fait.
Pour le protéger, bien sûr. Ils sont seuls en première ligne. Catherine Ney.
Mais la direction, c'est qui ? Parce qu'elle ne cesse de démissionner. Là, c'est Gabriel Attal qui a nommé un administrateur
provisoire.
Mais parce qu'il y a M. Vichra qui a des ennuis avec conjugaux et qui
avant,
est jeté. Il y avait Olivier Duhamel. Enfin, il y a eu tout ça. Bon,
avant, il y avait des points, etc.
Ouais, tout ça. Donc, c'est quand même depuis quelques années. Et ça avait quand même commencé avec... avec Richard Descoings qui avait lancé une autre politique on va de Carrie Bancella, quoi. C'est surtout ça. Il faut nommer un directeur, mais qu'il soit vraiment un directeur.
C'est vrai, mais le problème est plus profond. Le problème, c'est celui de la capacité d'assumer l'autorité quand on est en fonction d'autorité. Et dans un État qui se délite et dans une société qui se fragmente dans tous les côtés, là est le vrai problème.
Vous connaissez
la fameuse phrase de Platon dans La République. Quand la jeunesse l'emporte et gouverne, c'est l'âge de la tyrannie. On y est.
Et effectivement, tous les éléments violents et radicaux s'infiltrent dans les failles du système. On va rejoindre Place de la Nation, l'une de nos équipes. Vous venez d'assister à deux interpellations. Les forces de l'ordre sont à la manœuvre.
Oui, effectivement, des forces de l'ordre infiltrées en quelque sorte parmi les personnes ici présentes Place de la Nation, des forces de l'ordre qui étaient au nombre de 6 ou 7 qui sont intervenues et qui ont interpellé deux individus, les ont ensuite extraits de cette Place de la Nation, derrière le cordon de CRS en place actuellement. Et dans le même temps, on a pu entendre effectivement des potentiels éléments radicaux appeler leurs collègues à venir attaquer pompiers et les forces de l'ordre des appels 20, puisqu'on sent ici une mobilisation un petit peu en baisse, avec peut-être une mobilisation sur la fin. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les CRS, les gendarmes, la BRAVEM se sont déployés tout autour de cette place de la Nation. Sont-ils en train de former une NAS pour pouvoir guider les manifestants vers les bouches de métro, ou sont-ils en train de montrer les muscles pour garder cette tension à ce niveau actuel, c'est-à-dire très, très peu élevé? Alors effectivement, pour le moment, nous ne savons pas trop ce qui va se passer, mais ces forces de l'ordre sont bel et bien déployées tout autour de cette place de la Nation, et les manifestants pacifistes quittent au compte-gouttes, excusez-moi, cette place de la Nation.
Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Christophe Couivi. Vous êtes policier, c'est très impressionnant. Il y a cette ligne de CRS qui s'étale sur des centaines de mètres place de la Nation. Ça, évidemment, préfigure une action, j'imagine.
Déjà, c'est un impact psychologique, effectivement. C'est une phalange, c'est comme les phalanges grecques. Je parle à l'historien qui est à côté de moi. Mmh. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée. C'est sur une ligne avec les boucliers. On montre qu'on est là, qu'effectivement, on va passer bientôt à l'offensive. Il y a des collègues en civil qui ont repéré des lanceurs de projectiles, donc qui interpellent. Alors, c'est pas ils sont pas infiltrés, en fait, si vous voulez, mais ils sont en civil. Effectivement, c'est plus facile quand vous êtes en civil d'aller interpeller que quand vous êtes en uniforme, on voit arriver, quoi. Donc là, il y a l'effet de surprise, et hop, on revient tout de suite, on ramène les personnes interpellées derrière le cordon de nos collègues qui nous protègent. Et puis, on attend, encore une fois, le top. Donc, l'idée, c'est d'entourer, c'est d'encercler la place, petit à petit, d'avancer et de pousser un petit peu les personnes vers les métros ou vers des rues adjacentes pour disperser dans plusieurs endroits. Il faut éviter qu'ils se regroupent à un endroit. Donc, ça va être ça, après. Il y a souvent le jeu du chat à la souris. On essaie de se regrouper, faire des feux de poubelle dans les rues adjacentes pour faire durer un peu. Là, en fait, les Black Blocs sont un peu embêtés, si j'ose dire, parce que il n'y a plus vraiment grand monde sur la place. Donc, ils sont facilement identifiables, donc interpellables, et du coup ils peuvent pas eux-mêmes manœuvrer dans le nombre et dans la masse, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils se changent, d'ailleurs c'est risible, mais on en est là. Hop, c'est un peu Wonder Woman, vous savez, quand elle tourne autour d'elle et qu'elle change d'uniforme, et là c'est la même chose. Ils remettent leur vêtements civils, ils redeviennent entre guillemets des kidam normaux, et puis ils rentrent chez eux, chez papa, maman, pour encore une fois, pour.
Bien sûr. 18h55, on reste en direct sur CNews avec ce qui se passe place de la Nation. On va saluer les auditeurs d'Europe 1 qui vont rejoindre maintenant Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre, pour le 19h21h sur Europe 1. Je pensais vous parler du Muguet, mais je pense que vous allez parler des Black Blocs.
On va parler des Black Blocs, et puis on va demander à Louis Alliot tout à l'heure à 20h30 s'il a son brin de Muguet, mais je crois connaître la réponse.
Merci beaucoup Pierre de Villeneuve. Bon Europe 1 ce soir. Nous, on se retrouve toujours sur CNews.
Bonjour, c'est Sophie Davant. Quand on a appris qu'on allait recevoir sur Europe 1 le réalisateur des Visiteurs, du Père Noël est une ordure et de Papy fait de la résistance, on a décidé de lui dérouler le tapis rouge. Nous vous proposons une émission de Sophie et les copains spécial cinéma, avec comme invité exceptionnel Jean-Marie Poiré. 2 heures de stars, d'anecdotes et de coulisses. Soyez là, on va jouer ensemble.
Sophie et les copains, émission spécial cinéma.
Je vous retrouve demain de 16h à 18h sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
IKEA.
On est quand même bien au soleil sur notre balcon, hein.
Mais tellement.
Mais il manque un truc.
Un serveur qui fait « je vous sers quelque chose ?»
Ouais, enfin, surtout une table et des chaises.
Notre nouvelle offre va mettre tout le monde dehors. Jusqu'au 12 mai, profitez de moins 20% sur les tables et chaises d'extérieur avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en 2 matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe. Le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+, et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid, à partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si Accordiac, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1 soir.
19h, 21h. Pierre de Villeneuve.
Bienvenue, bienvenue chers amis, en ce 1er mai, toute la famille d'Europe 1 soir est là et nous sommes en chambre jusqu'à 21h. Il est 19h sur Europe 1. Au sommaire, un 1er mai chahuté, détourné, la fête des travailleurs est devenue un gigantesque étang.